VII est une des grandes figures parmi les 265 papes qui se sont succédés sur le trône de Pierre. C'est une des plus attachantes parce que c'est vraiment un pape au cœur de la tourmente. Il a exercé son pontificat de 1800 à 1823, c'est-à-dire au lendemain de la Révolution française. Et en quelques décennies, l'onde de choc révolutionnaire a vraiment bouleversé toutes les structures politiques et sociales. La Révolution française, qui a été un bouleversement terrible pour l'Église, pas seulement en France, mais dans le monde entier. L'attitude de l'Église par rapport à ce mouvement révolutionnaire, il ne faut pas la caricaturer, elle a été très contrastée. Les premiers mouvements de 1789 ont été globalement largement soutenus par les fidèles et par le clergé. Cette attitude bienveillante a diminué au fur et à mesure que la Révolution a prétendu finalement mettre le clergé sous tutelle. Et ça va tourner franchement à la persécution, d'ailleurs après 1792, avec la Terreur, quand la Révolution fera de nombreux martyrs dans l'Église. Donc, pour l'Église tout entière, c'est une période extrêmement perturbée. Un seul indicateur permet de s'en donner une petite idée. En 1800, on considère qu'il n'y a plus que 300 missionnaires en activité dans le monde entier. Ça dit à quel point les guerres qui ont commencé sur la terre, se sont répandues ensuite sur les mers, ont perturbé en profondeur l'existence de l'Église, jusqu'à menacer le ministère du pape lui-même. La mission, depuis 4 siècles, s'était répandue sur tous les continents. Et en 1800, elle est quasiment revenue à son point zéro, quoi. Puisque en 1798, le pape Pie VI est déporté par les révolutionnaires français qui occupent Rome et qui ont proclamé la République. Il est déporté dans la vallée du Rhône, à Valence. C'est là qu'il va mourir un an plus tard, en 1799. Et ce pape installé à Valence, les révolutionnaires français l'appelaient le dernier pape. C'est dire à quel point, dans l'esprit d'un certain nombre de gens, l'institution Église était destinée à s'éteindre avec la Révolution française, quoi. Alors Pie VII, lui, est élu à Venise, où se trouvent les cardinaux à ce moment-là. Et Pie VII est un homme qui semble, d'une certaine façon, être l'homme de la situation, parce que d'origine c'est un moine bénédictin, mais un homme doté d'une solide expérience pastorale aussi, puisqu'il a été évêque d'Imola, dans le nord de l'Italie, pendant 15 ans. Et comme évêque d'Imola, il a fait preuve d'un grand réalisme tactique face à la Révolution française. Ce n'est pas du tout un homme de résistance et, je dirais, de réaction a priori. Quand il était encore le cardinal Chiaramonte, il a sans hésitation pris parti pour que ses fidèles s'adaptent à la nouvelle donne politique dès lors que son diocèse était occupé par les troupes françaises. Et notamment à Noël 1797, il a prononcé une homélie qui est restée fameuse, qu'on appelle l'homélie républicaine du cardinal Chiaramonte, dans laquelle il n'hésite pas à dire « Soyez de bons chrétiens et vous serez d'excellents démocrates ». Donc Pie VII, sans état d'âme, je dirais, considère que on peut s'adapter à cette nouvelle façon de penser la vie politique. Et tout au long de son pontificat, il va garder le même réalisme face à des évolutions de l'histoire qu'il considère comme inéluctables. Il considère que la Révolution française, c'est comme le déluge dans la Genèse. C'est-à-dire que ça a changé de manière inexorable la face de la Terre et qu'il faut qu'on fasse avec. L'image est de lui, reprise par son secrétaire d'État, Gonsalvi. La Révolution française, c'est un nouveau déluge. Et quand Noé est sorti de l'arche, eh ben il s'est adapté au monde qu'il a trouvé. Nous aussi, il faut qu'on s'adapte. Donc, un homme à la fois très réaliste et à la fois tout à fait intraitable dès lors que la liberté de l'Église va être en jeu. Ce qui fait la richesse de ce personnage, pour finir le tableau initial, c'est qu'il nourrit sa réflexion à la fois aux sources de l'Écriture que des philosophes contemporains. Il cite Saint Paul, mais il cite aussi Rousseau. C'est un homme qui, vraiment, tente d'entrer dans la pensée de son temps. Et probablement là se trouve une des clés de la force dont il va faire preuve tout au long de son pontificat. Dans le pontificat de Pie VII, il y a 3 phases. La première, elle va durer 9 ans. Pie VII a comme objectif de restaurer les états pontificaux et de les moderniser dans leur organisation politique. Les restaurer parce qu'il est convaincu que le pouvoir temporel du pape est malgré tout la base de la liberté de l'Église. Et en même temps, tenir compte des bouleversements révolutionnaires dans l'organisation de ces états. Donc, par l'entremise de son secrétaire d'État, il va lancer un certain nombre de réformes qui d'ailleurs, pour la plupart, seront bloqués par le conservatisme des ecclésiastiques qui ne voient pas forcément d'un bon œil la remise en cause de leurs prérogatives politiques. Et il va également être très pragmatique et très conciliant avec Napoléon. C'est l'époque où il conclut avec lui le concordat français en 1801, qui restaure toute la juridiction papale sur l'Église de France et qui en même temps fait des concessions très importantes en matière de liberté de conscience, que le pape reconnaît, en matière de laïcité de l'État aussi, que le pape reconnaît en acceptant le concordat, donc de vrais compromis de la part de Pie VII. C'est aussi la période durant laquelle Pie VII va venir à Paris, en décembre 1804, pour sacrer l'empereur. Donc, dans un premier temps, le pontificat de Pie VII est un pontificat pragmatique, conciliant, où il fait en sorte de s'adapter à la nouvelle donne de son époque. Napoléon ne va pas s'arrêter là, il va tenter toujours plus d'asservir l'Église aux intérêts de l'Empire, et on va entrer dans une deuxième phase qui est une phase de conflit très brutal. Parce que Napoléon va vouloir avoir face à lui un pape de plus en plus docile, il va confisquer les états pontificaux, et plus Napoléon avancera dans ses revendications hégémoniques, plus Pie VII lui opposera une résistance farouche, quand bien même il sera coupé de tous ses collaborateurs. Parce que en 1809, le conflit entre Napoléon et Pie VII a pris une telle ampleur que Pie VII est littéralement enfermé dans son palais du Quirinal, entouré vraiment de ses derniers collaborateurs, et qu'il décide d'excommunier Napoléon. Il prend un décret d'excommunication de Napoléon, que bien sûr Napoléon ne veut pas accepter, et il envoie donc les troupes françaises qui occupent Rome prendre d'assaut le palais du Quirinal, un assaut qui a lieu dans la nuit du 5 au 6 juillet 1809, et déporter le pape. Et le pape part véritablement en déportation, dans un périple qui va durer 5 ans. D'abord, il est installé à Savone, puis ensuite il montera jusqu'à Fontainebleau, en région parisienne, avant de redescendre à Savone en traversant tout le massif central. Enfin, Napoléon lui fait faire un grand tour. Ça va durer 5 ans, ce périple, l'objectif étant d'isoler totalement Pie VII. De l'isoler, il est même gardé à vue au plan policier, il est coupé de tous les cardinaux. Napoléon espère, en le brinque-ballant de la sorte, le faire céder. Et de manière intraitable, Pie VII refusera obstinément de céder. Quand bien même Napoléon semblera réussir à rallier à lui une grande partie des évêques et des cardinaux français, Pie VII restera intraitable, refusera absolument que Napoléon mette la main sur l'Église. Et ça n'est que la chute de Napoléon en 1814 qui va permettre à Pie VII de rentrer à Rome, où il fera preuve de toute sa grandeur d'âme à ce moment-là, parce que c'est lui, Pie VII, qui va accueillir en exil la mère de l'empereur et la famille de l'empereur, dans ses propres états du Vatican, alors que c'est son ennemi le plus intime qui vient de tomber. Pie VII est une figure qui est très attachante, parce que de tous les successeurs de Pierre, il est l'un de ceux qui incarnent le plus fortement le rôle de roc confié à Pierre par Jésus. Quand Jésus dit à Pierre, « Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église », il lui confie un rôle de fondation, de solidité fondamentale, qui dans certaines périodes de l'histoire ne peut se traduire que par une espèce de résistance passive que Pie VII incarne de manière très très exceptionnelle. Pendant toutes les années où Napoléon l'a promené à travers la France, il a eu une capacité d'action à peu près totalement anéantie, il n'a eu que la capacité de résister, et d'être, par sa résistance, le garant de la continuité de l'Église dans les tourmentes napoléoniennes, qui lui restent encore 9 ans après la chute de Napoléon, vont fonctionner un temps, mais n'empêcheront pas juste après l'unité italienne. Donc, vraiment, Pie VII ne laisse pas le souvenir de beaucoup de réformes réussies, mais le souvenir d'une résistance, d'une permanence, d'une continuité dans la conduite de l'Église, qui est tout à fait exceptionnelle.